Chapitre 3. M. Perroutet n'était pas un directeur de banque comme les autres. D'origine modeste, il était le cinquième enfant d'un armurier de Valenciennes. Il s'était rendu très jeune en Amérique. Là-bas, grâce à son mérite et sans doute à d'heureuses circonstances, il était devenu, après avoir passé par tous les postes, un personnage important de la Canadian Bank. À 40 ans, soit après un séjour de 25 ans aux États-Unis, il éprouva la nostalgie de la France. Il n'eut alors aucune difficulté à se faire nommer directeur de la succursale de cette banque à Paris. Il habitait avec sa femme, une Américaine, et ses deux filles, Maude et Edith, âgées de 16 et 18 ans, un grand appartement donnant sur le jardin d'acclimatation situé boulevard Maillot, boulevard que l'on considérait à l'époque comme perdu dans la plus lointaine banlieue. Cet homme, plein de cordialité dès le premier instant d'un entretien, menait à Neuilly l'existence, à la fois solitaire et opulente, de la plupart de ceux qui ont fait une brillante carrière à l'étranger. Aucun art d'agrément n'était épargné aux jeunes filles. C'était, boulevard Maillot, un défilé ininterrompu de professeurs et de fournisseurs. Chaque anniversaire servait de prétexte à un séjour dans quelques villes d'eau. Mais si M. Perroutet perdait ainsi de vue les heures difficiles de sa jeunesse, il n'en avait pas moins l'amertume de constater qu'il n'avait pas d'amis, que le plaisir de recevoir des gens de son rang et d'être invité lui était refusé. Sans s'en apercevoir, il s'était laissé petit à petit submerger par ses frères et sœurs, par les professeurs et leurs familles, par des relations de vacances. Une indulgence née de sa vie de lutte et peut-être aussi du dépit d'être isolé d'un monde dont il eût été naturel qu'il fît partie, lui faisait considérer ces gens avec une profonde bienveillance. Il les interrogeait, suivait leurs conseils. Il n'en avait pas fallu davantage pour qu'ils lui fussent dévoués corps et âme. Pourtant, il se gardait bien de leur laisser approcher ses filles. Quelques jours avant de se rendre à Paris, M. Théodore Digoin avait donc écrit une longue lettre au banquier, la plus maladroite qui fût. Elle se résume ainsi. « Je vais vous demander un grand service, un si grand service que je ne peux vous le demander que de vive voix. » Ce fut néanmoins avec beaucoup d'amabilité que M. Perroutet reçut le directeur de l'agence. Il le conduisit tout de suite dans son cabinet de travail, pièce immense, où il ne travaillait jamais d'ailleurs. Et comme s'il s'agissait d'arracher un secret au visiteur, le réconforta et lui posa doucement des questions. « Ce n'était que cela » s'écria-t-il quand il apprit ce que M. Digoin attendait de lui. Une telle complaisance peut surprendre. Elle était pourtant naturelle chez un homme qui eût refusé avec la même franchise le service qu'il eût estimé ne pouvoir rendre. Trois semaines plus tard, le jeune Digoin arriva à Paris. Il avait été entendu entre son père et M. Perroutet qu'il prendrait pension chez une ancienne gouvernante de Maude, Mme Prince. Celle-ci avait naturellement conservé d'excellentes relations avec ses maîtres. Depuis qu'elle avait cessé de travailler, elle habitait place du marché à Neuilly, dans un petit appartement où le soleil donnait toute la journée. « M. Perroutet m'a prévenu », fut sa première parole. C'était une femme de 45 ans, bavarde, jouant dans les grandes occasions, comme quand elle avait été placée, la comédie de se laisser aller et de se ressaisir. Sans qu'on lui demandât rien, sa conversation n'était qu'une succession de confidences et de réticences. Subitement, un peu avant le dîner, alors qu'elle venait de dire que nulle part, et pourtant elle avait travaillé dans les familles les plus distinguées de Paris, elle n'avait rencontré des jeunes filles aussi charmantes, aussi bien élevées, aussi fines, aussi sensibles que les petites Perroutet. Elle ne desserra plus les lèvres. Elle mit la table. De temps en temps, elle jetait un regard dédaigneux sur son hôte, qui, pourtant, l'avait écouté pendant plus de 3 heures avec la plus grande attention. Ce genre d'accueil est fréquent chez ceux à qui on impose un nouveau venu. Ils s'assurent, avant de montrer leur jalousie, qu'elle ne leur causera aucun tort. Ce n'est que lorsqu'ils en ont acquis la certitude qu'ils ne se donnent plus le mal de la cacher. Le lendemain, Charles devait passer boulevard Maillot. Le cœur battant, il sonna à la porte. Il s'en voulait d'être ému à ce point. Pour cacher son trouble, il prit un air glacial. M. Perroutet ne l'avait encore jamais vu. Il le dévisagea avec attention. Cet examen devait déterminer l'emploi qu'il lui confierait. Puis il se détendit. Le jeune provincial, engoncé dans son veston de cheviotte noire, dont les cheveux étaient encore plantés trop bas, dont le nez était encore bizarrement formé, les oreilles trop écartées, enfin, dont les traits n'avaient pas encore été façonnés par l'âge, lui avait fait éprouver la petite satisfaction de rendre service sans nuire à ses intérêts, bien au contraire. Ce n'était pas chaque jour qu'on rencontrait un employé si visiblement désireux de bien faire. Ce jeune homme, il est vrai, ne semblait pas posséder des dons exceptionnels. M. Perroutet devina tout de suite que Charles aurait du mal à s'élever à des emplois supérieurs. Avec les années, au lieu de s'assouplir, de s'adapter, il était probable qu'il se raidirait dans une perfection sans envergure. Il ne fallait pas s'en plaindre, ses employés sont les plus précieux. La seule crainte, M. Perroutet la ressentit peu après, était que ce garçon ne sût pas se faire aimer de ses collègues, qu'il ne se fît des ennemis à cause de sa suffisance. La vie du débutant dont on guide les premiers pas commença alors pour le nouvel employé de la Banque canadienne. La sévérité de ses chefs dissimulait leur désir de lui être utile. Il y avait des moments où on feignait de se souvenir qu'il avait vécu agréablement en province avant de venir à Paris. On lui pardonnait alors les petites fautes qu'il pouvait commettre dans son service. Ou bien on faisait le contraire, on les lui reprochait. Entre son passé, que la plupart se représentaient insouciant, et le présent, il fallait de toute façon que la différence ne fût pas trop grande. Il fallait également que la vie de travail ne lui parût pas trop dure. Mais ce qui surprit le plus Charles, ce fut que, malgré sa qualité de nouveau venu, il put prendre, comme tout le monde, certaines libertés que le règlement intérieur interdisait, sans que personne semblât seulement le remarquer. Une année s'écoula, durant laquelle, s'il ne gravit aucun échelon de la hiérarchie bancaire, il pénétra dans ce fameux milieu sur lequel planait, rarement visible, la famille Perroutet. Il fut reçu à dîner presque par tous ceux qui avaient obtenu quelques faveurs du banquier. Comme l'avait prévu ce dernier, Charles ne sut pas se faire aimer. Personne ne paraissait croire qu'il fût particulièrement recommandé. On ne l'invitait pas comme l'heureux élu dont on pourrait espérer plus tard un appui. Les gestes intéressés ont ceci de curieux qu'ils ont leur dignité. Bien qu'étant le dernier en date à tirer profit de la bonté du maître, bien que pour cette raison tous ces gens ignorassent encore jusqu'où irait cette bonté, il considérait Charles Digoin, jusqu'à preuve du contraire, comme leur égal. Et c'était justement ce qui ne plaisait pas au jeune homme.